c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Très bonne journée à vous. Que celle-ci se passe dans la bonne humeur. Alors en principe, les étrennes, c'est fini et nous voilà dans la période des soldes et du blanc. Eh ben oui, janvier est un mois de dépenses, mais on garde le moral et puis faire les soldes, ce n'est vraiment pas désagréable. Alors c'est peut-être un moyen de se faire plaisir sans en payer le prix fort, et se faire plaisir, figurez-vous, modère le stress, améliore notre humeur, nous rendant beaucoup plus forts face à l'adversité. Alors pas d'hésitation à avoir.
J'achète, plus rien ne m'arrête. Ce petit air dans la tête, j'achète. C'est bon pour la tête. J'entends ce petit refrain et je me sens bien. Je n'ai plus un rouble, mais j'ai déjà tout en double. Mais quand j'entends la promo, mon regard se trouble. Je suis pris de tremblement et je claque des dents. Et avant de tourner de l'œil, je prends mon portefeuille. J'achète, plus rien ne m'arrête. Ce petit air dans la tête, j'achète. C'est bon pour la tête. J'entends ce petit refrain et je me sens bien. J'additionne comme une bête de somme. On m'assomme et je consomme, plus j'en veux et plus on m'en donne. Personne m'avait dit que je pouvais me faire mettre frais en trois fois sans frais. J'achète, plus rien ne m'arrête. Ce petit air dans la tête, j'achète. C'est bon pour la tête. J'entends ce petit refrain et je me sens bien. J'achète, c'est bon pour la tête. J'entends ce petit refrain et je me sens bien. Quel bonheur d'avoir 5 gold au moment des soldes. On peut se faire refaire à neuf pour 19,99 au lieu de prendre une espèce.
à la télé, alors c'est vrai. Je repeins ma vie en rose dès que j'ai ma dose. Et tous mes démons je laisse quand je passe à la caisse. J'achète, j'achète, plus rien ne m'arrête. Ce petit air dans la tête, je l'achète, j'achète, j'achète. C'est bon pour la tête, j'entends ce petit refrain et je me sens bien. J'achète, j'achète, plus rien ne m'arrête. Ce petit air dans la tête, j'achète, 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 j'achète. C'est bon pour la tête, j'entends ce petit refrain et je me sens bien. Et je me sens bien, et je me sens bien, et je me sens bien.
Les singes savants, c'est en avril 2008 qui est sorti ce premier album. J'achète un disque à l'image de la scène, hybride, généreux et incisif, puissant d'abord, puisant d'abord dans les répertoires du rock et du ska, mais aussi de la java, du reggae, du swing et du disco. Alors aujourd'hui dans l'air du temps pour notre rubrique Saltant sur la planète, Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, nous parlera de participation citoyenne. Et c'est encore Jérôme Pic, entrepreneur en zoothérapie, qui sera avec nous aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons épilogué sur le métier. Eh bien, aujourd'hui, Jérôme nous convaincra, j'en suis sûre, que les animaux apportent énormément de bien-être aux personnes âgées et esselées. Et justement, l'âge reste un facteur net dans la maladie d'Alzheimer. Alors, on y reviendra avec aujourd'hui le docteur Guy de Rognaucourt.
Pensant que les trains déraillent, ou alors prends ton vélo, t'arriveras bien assez tôt. Tu redresses bien tes pensées, pointe les droits vers le soleil et laisse tomber l'idée que la moindre erreur se paye. S'entrer l'amour et...
Ho'oponopono ne se compare pas ni ne s'apprend. Ho'oponopono se vit, c'est un art de vivre. Ho'oponopono est un véritable chemin vers la conscience unitaire et c'était Adamo avec cet extrait de son dernier album L'amour n'a jamais tort.
Radio Plus, appréciez la différence.
Notre enquête dans l'air du temps, alors nous venons de commencer 2017, et bien figurez-vous mesdames qu'il nous reste encore pas mal d'années à galérer. En effet, d'après le Forum économique mondial qui se tient chaque année à Davos en Suisse, fondation indépendante et impartiale qui réalise une étude sur les disparités de genre, eh bien il faudra attendre 2186 pour que l'égalité salariale homme-femme soit effective. En effet, par exemple, aujourd'hui, si monsieur gagne 100 euros, eh bien madame n'en touchera que 59. Est-ce que cela ne s'appellerait pas de la discrimination pure ? Et plus on progresse dans l'échelle des salaires, eh bien plus l'écart entre les femmes et les hommes est important, en partie parce que les femmes sont beaucoup moins nombreuses en haut de l'échelle. Ah oui, 2186 en tout. Il n'y a plus que 170 ans à attendre après tout, hein.
Ça fait mal quand tu te la joues vent. Femme fatale, ça fait mal. Lorsque tu as décidé de castrer un mal, t'es comme une menthe religieuse. Tu prends ton plaisir et puis tu te changes en tueuse. Ça le fait, c'est pas virtuel. T'y peux rien, c'est en toi, tout ça c'est naturel. Ça le fait. Qui chasse, qui tue, prépare les repas. Mais les hommes, ça se prend pour quoi? Ça travaille un peu et ça roule autant que ça boit. Si l'avenir de l'homme, c'est la femme, l'homme est le présent du singe, moi Tarzan, toi Jacques. Bon job, salaire égal, paradis pour tous, soyons fous, vive la sociale. Ça le fait,
ça le fait.
Justicier, seigneur féodal.
Ça fait mal.
Quand lorsque tu as décidé de castrer la main. Ça fait,
ça fait,
ça fait mal.
Ça fait mal.
Quand tu te la joues, vent, l'âme fatale.
Ça fait, ça fait mal.
Ça fait,
ça fait,
ça fait mal.
Ça fait mal.
Lorsque tu as décidé de castrer la main.
Eddie Mitchell, et quant à lui, eh bien, je crois qu'il est pour l'égalité des sexes. Allez, on retrouve tout de suite Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, pour Sale temps sur la planète.
Sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors, n'ayons pas peur d'imaginer un monde meilleur. La semaine dernière, nous avons parlé d'écologie heureuse et sympathique et nous avons insisté sur le fait que chacun d'entre nous pouvons faire quelque chose pour notre environnement. Chaque action individuelle compte, individuelle d'ailleurs ou en petit groupe. Jean-Louis Ouatté, bonjour.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, je vous faisais la remarque que beaucoup de personnes, loin de s'impliquer dans tout ce qui est environnemental, ne se sentent pas concernées. Alors, est-ce que ce n'est pas dû au fait que les gens soient très peu sollicités, d'abord dans la prise de décision ? En fait, si on nous demandait peut-être davantage notre avis, peut-être que par répercussion, eh bien, nous prendrions conscience du rôle à tenir.
Tout à fait. On a... dans notre société, un déficit démocratique. Hein. On a une faible implication citoyenne et puis ce qui conduit à un manque de cohérence des projets de territoire. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont réalisés avec un ancrage insuffisant dans les projets de territoire, avec peu ou pas d'implication des habitants. Les enquêtes publiques et les consultations, elles sont souvent réduites à des formalités et puis avec peu de mobilisation citoyenne. Bon, les enquêtes publiques, ça arrive souvent en fin de construction de projet. Les documents proposés sont très techniques, je dirais pour la plupart du temps incompréhensibles pour le public. Et puis en plus, l'accueil est mal organisé dans les mairies parce qu'avec peu de confort pour étudier les dossiers, c'est souvent sur un coin de comptoir ou sur une table dans un coin de la mairie. Et puis, avec des commissaires enquêteurs qui n'est pas toujours facile d'échanger.
Alors, justement, comment pourrions-nous devenir citoyens participants ?
Il faut que la concertation tende vers une co-décision et une co-construction du projet. Plus les citoyens seront des décideurs, plus ils seront des acteurs de la réussite des projets. La participation citoyenne, ça ne doit pas être une prise d'avis sans vraiment prendre en compte des échanges dans la décision finale. Alors, ça n'est possible que si elle arrive en début de projet et pas en fin. Et puis qu'il est possible que la participation citoyenne puisse apporter des modifications au pré-projet. Ce n'est possible que si elle est vue comme un moyen de co-construire le projet et pas comme un outil de communication et voire une vitrine démocratique qui sert à mettre en place un projet qui est déjà d'ailleurs bouclé bien souvent et où les intérêts politiques personnels apparaissent.
Alors, pour vous, ce serait donc le meilleur moyen de rendre efficace l'expression des citoyens, si je peux dire.
Oui, tout à fait. L'habitant doit garder un réel pouvoir de décision et de co-construction à toutes les étapes, hein, que ça aille de la définition du projet à sa mise en œuvre. Bon, il s'agit d'une démarche qui doit permettre d'aller d'une envie individuelle à un intérêt collectif. Il y a un déficit actuellement d'intérêt collectif et cette expression des citoyens, justement, elle a pour but d'aller vers cet intérêt collectif, partager un processus commun. Et donc ça, c'est important.
Alors... C'est quand même pas facile à mettre en œuvre, finalement, Jean-Louis, cette participation citoyenne.
Ben non, c'est pas facile. Ça, il n'y a pas de méthodologie absolue et universelle. Bon, il y a des règles importantes à respecter. Et puis surtout, cette participation, elle doit être encadrer et puis accompagner. Le rôle de l'accompagnateur va être fondamental. Va être fondamental, bah oui, pour maintenir la mobilisation tout au long du projet. C'est essentiel au maintien et au développement de la dynamique. Donc maintenir la mobilisation, bah, c'est avant tout maintenir la convivialité, parce que sans convivialité, on n'a pas de participation. Donc les personnes qui participent et reviennent de rencontre en rencontre, elles vont venir si elles y trouvent du plaisir et puis de la simplicité dans leur implication. Bon, il faut savoir que tout le monde ne sera pas moteur au même niveau. Hein, vous avez des gens qui vont participer de manière épisodique. Il y en a qui portent le projet, il y en a qui participent aux réunions, il y en a qui vont apporter une aide ponctuelle. Donc, puis la place des citoyens peut évoluer tout au long du projet. Hein. Et donc, c'est un élément qui est important de prendre en compte. Et il faut que les gens ne se sentent pas piégés dans ce projet. Donc, bah, il y a tout un processus à respecter. Et puis, il faut adapter les moyens de communication et puis aux habitudes et puis aux disponibilités des participants. Il est évident qu'il y a la vie de famille, donc il faut en tenir compte. Il ne faut pas des réunions trop longues. Enfin, il y a beaucoup à dire sur ce sujet.
Tout à fait. En tout, en fin de compte, si on résume, pour qu'elle soit efficace, puisque le citoyen ne se laisse pas berner deux fois, il faut qu'il soit impliqué jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mise en œuvre du projet, c'est-à-dire à partir du départ jusqu'à sa mise en œuvre.
Bah, tout à fait. Hein. Donc, si la participation citoyenne n'est pas prise en compte tout au long du projet, c'est sûr que on court à l'échec. Donc, il faut que cette participation soit un moyen de co-construire le projet. Et donc, ça doit permettre de rencontrer différents acteurs qui gravitent autour des projets, comme les entreprises, les acteurs socio-économiques, les associations, les commerçants, les agents territoriaux. Donc, c'est important que ce soit pris en compte tout au long du projet.
Alors, Jean-Louis Ouetté, que pourrait-il se passer si les citoyens se montrent absolument contre un projet établi par les décideurs, c'est-à-dire par les politiques? Ils sont absolument contre.
C'est déjà contenu dans la phrase. Si le projet est établi, c'est que c'est faussé dès le départ. Voilà. Donc, il faut que ce projet soit co-construit et non pas projet établi. Donc, il faut définir bien le cadre et puis par le biais d'une convention et puis avec travailler continuellement avec les élus, avec les responsables pour justement cette co-construction.
Mais alors justement, quelque part, les élus n'ont-ils pas intérêt à mettre en place une... Enfin, ont-ils vraiment intérêt à mettre en place une participation citoyenne? N'auraient-ils pas un peu peur de perdre leurs prérogatives?
Bah, ça, c'est la difficulté. Et puis, c'est la raison pour laquelle c'est encore, c'est pas assez répandu. C'est que, bon, c'est perçu comme une perte de pouvoir de la part des politiques sur les projets. C'est vrai que si l'avis de la population n'est pas semblable à la vision qu'avaient les porteurs de projet, ça remet en cause l'intérêt du projet tel qu'il était envisagé. Donc c'est pour ça qu'une participation citoyenne, elle ne peut être vraiment réussie que si elle respecte et intègre le principe de la contribution du public, que le principe de la contribution du public peut influencer la décision.
Mais alors justement, quels sont les éléments qui freinent aujourd'hui le développement de cette démocratie participative?
Bah, ce que je viens de
tout
dire,
à fait.
C'est que en fait, il y a quand même la difficulté de remise en cause du pouvoir des politiques. Bon, il y a des projets qui sont pensés les citoyens ne sont pas consultés parce que bon, on pense pour eux, hein. Il y a beaucoup de politiques qui pensent pour leurs citoyens, qui pensent qu'ils ne sont pas à même justement de donner leur avis ou de sur les projets. C'est-à-dire donner leur avis, c'est donner une bénédiction.
Tout à fait.
Donc je crois que c'est ça le gros problème.
Mais justement, Jean-Louis, et les jeunes dans tout cela, ne faudrait-il pas les intéresser à la politique qui, rappelons-le, est l'affaire de tout citoyen. Et à ce propos, tenez, Nathalie Loiseau, qui est la directrice de l'ENA, vient de sortir un ouvrage, La démocratie en BD, c'est très bien fait, et ça montre qu'il faut prendre des responsabilités. Alors cette BD explique la démocratie, mais aussi la citoyenneté, et incite à dire les choses. Elle rappelle que nous sommes dans un état de droit où chacun a son mot à dire, et chacun a son mot à dire, n'est-ce pas Jean-Louis, surtout en matière d'environnement que l'on veut durable.
Tout à fait. Prendre en compte la vie des citoyens dans les décisions qui concernent leur vie, c'est essentiel à la démocratie. Il en résulte de meilleurs choix, une meilleure acceptation des décisions locales et donc un meilleur respect aussi des mesures qui sont mises en place. On parlait des jeunes. Je pense que si on veut que les jeunes respectent les mesures mises en place, il est important qu'ils soient associés justement à la co-construction de ces projets. Et plus ils sont associés, mieux ils vont respecter.
Tout à fait. Prendre part aux décisions engage davantage le citoyen à agir et à mener des actions de terrain, on va dire. Alors la semaine prochaine, justement, Jean-Louis, nous citerons quelques exemples.
Tout à fait, parce que bon, on citera des exemples liés à l'environnement, parce que le développement durable, ça met l'homme au cœur du développement. Et un projet de développement durable doit s'appuyer sur des méthodes d'animation participative à chaque étape, depuis l'élaboration jusqu'à la décision, la mise en œuvre et le suivi du projet.
En tout cas, merci Jean-Louis. Je rappelle que vous êtes président de Lettres Nature, association agréée pour la protection de l'environnement dans la région Nord-Pas-de-Calais. Merci Jean-Louis, à la semaine prochaine.
Merci, bonne semaine.
Bonne semaine.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Du cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal. Faire les beaux. S'acheter de l'air en bar, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de
C'était bien sûr Noah. Alors, tout de suite, sans transition, sans autre transition, notre rubrique animalière.
Paul Léoto disait « Les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre et je parle de toutes les bêtes. »
Jérôme Pic, bonjour.
Bonjour.
Alors la semaine dernière, vous nous avez expliqué en quoi consiste le métier de zoothérapeute. Votre objectif à vous, eh bien, c'est de rompre l'isolement, que ce soit des personnes âgées, mais aussi handicapées oui. ou ayant des déficiences, mais pas que. Et on a vu, Jérôme Pic, que finalement, votre domaine d'action ou d'intervention est assez étendu avec un public, on va dire, qui peut être très différent.
Oui, tout à fait. La zoothérapie n'a pas de limite, je dirais. Il suffit d'être clair avec les objectifs qu'on veut atteindre pour aider au mieux ceux qui font appel à moi.
Alors, justement, je suppose qu'on aborde pas, Jérôme Pic, toutes les personnes de la même façon. Une personne âgée, quelqu'un atteint de schizophrénie ou d'autisme, ou alors une personne atteinte de démence ou de maladie d'Alzheimer. Et on comprend que cette approche thérapeutique exige des compétences particulières, mais surtout celle d'être et de rester à l'écoute, je suppose.
Alors oui, le but premier de la zoothérapie, c'est vraiment de créer une relation d'aide qu'on base entièrement sur la confiance qui est facilitée par la présence des animaux. Et il faut jamais trahir cette confiance aussi, car à force on devient un peu les confidents des personnes rencontrées qui nous racontent leur histoire, leurs beaux souvenirs, pardon, mais aussi parfois leurs doutes ou leurs peines. Qui ne s'est pas déjà confié à son chien, en tout cas moi, c'est mes premiers confidents.
Oui, alors en fait, pour que la thérapie s'avère être efficace, il faut qu'il y ait entente entre le zoothérapeute avec ses connaissances et sa façon d'être, mais aussi peut-être son vécu et sa compréhension de la situation. Il y a aussi le patient avec son histoire, sa problématique, ses angoisses, ses défaillances, ses espoirs, ses envies. Et puis il y a l'animal, lui aussi avec son caractère. Donc c'est véritablement un trio. Oui. Alors est-ce que c'est toujours facile ?
Ben oui, c'est vrai que c'est totalement un trio, hein. Le mot est bien juste. Et oui, il faut savoir jongler sur le moment. Mes chiens, ils sont pas toujours enclins à travailler. Ils vont parfois être un joueur, un peu plus calme parfois. Pour ma part, il y a des jours où je suis moins dynamique, forcément. Et puis aussi, pour la personne qu'on le rencontre, ben il faut donc aussi faire avec l'humeur du moment. Faut vraiment mettre sur l'instant présent. Donc c'est pas toujours évident. Chaque séance est justement différente. C'est à moi, après, je l'ajuste et je change l'activité si ça ne marche pas.
Bien sûr. Voilà. Alors, Jérôme Pic, vous intervenez régulièrement avec vos deux chiens à l'EHPAD d'Isberg en partenariat avec Justine Charles, qui est ergothérapeute. Alors, et ce, pour faire travailler la mobilité des résidents. Alors, comment y avez-vous été accueilli par ces résidents, justement, plutôt de façon sympa ou alors ont-ils été étonnés, voire réfractaires quand ils vous ont vu arriver avec vos deux chiens?
Alors, c'était les contacts vraiment, vraiment, vraiment sympathiques. Ça s'est fait relativement facilement. Et bon, il y avait bien sûr des gens un peu plus réfractaires, parce que tout le monde n'aime pas les chiens. Mais ils regardaient quand même du coin de l'œil avec un petit sourire. Et l'étonnement, il réside surtout dans le « Oh, qu'ils sont beaux, viens mon petit !» Et même les soignants sont aussi un très bon accueil avec les soignants.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu d'une séance, savoir comment ça se passe avec ces personnes?
Ah, alors ben, quand j'arrive donc dans l'établissement, dans l'unité où je vais intervenir, désormais je détache mes chiens et je les laisse un peu explorer l'environnement, interagir avec tous ceux qui sont présents, même les soignants, ils en profitent aussi. Et puis après on se regroupe pour ceux qui souhaitent venir dans l'activité. Accompagner des chiens, s'ils veulent les amener aussi dans une salle spéciale. Et après avoir fait les présentations de tout le monde, c'est-à-dire faire le tour des prénoms, présenter mes chiens, j'explique ce que je vais faire, quelle activité on va faire. Et puis, comme la semaine dernière, il y a 15 jours, c'était un jeu de mémoire où il fallait reconnaître des animaux sur des cartes, suivi d'une séance de dressage avec des cerceaux où les chiens devaient passer. Voilà un peu. Puis après, on refait un tour des prénoms pour voir si ils ont assimilé le nom des chiens, par exemple. Et puis après, voilà.
Alors, justement, vous avez dit ceux qui veulent assister à la séance, ils sont nombreux, ils viennent tous ou...
En général, oui, il y a vraiment très peu de refus. Ça va dépendre, comme j'ai dit précédemment, vraiment de l'humeur du résident du moment. J'ai une dame qui, une fois, était mon petit et tout ça, voulait le prendre dans ses bras. Et la semaine qui suivait, va coucher, va ton panier. Vous voyez, c'est vraiment, ça dépend des jours.
Ah oui. Et justement, avez-vous déjà obtenu des résultats significatifs, hein, même si vous, finalement, vous démarrez dans le métier?
Alors, oui, significatif, oui. Dès les premières visites, on a parfois des résidents qui ne veulent rien faire. Et puis là, en voyant les chiens, d'un coup, se lèvent, alors qu'il était toujours difficile de les faire participer. Il y a des souvenirs qui ressurgissent très rapidement, qui amènent aux soignants des informations qui ne savaient même pas, les gens n'avaient jamais parlé.
Et alors justement, Jérôme Pic, il y a aussi les jeunes. On connaît toute la difficulté à entrer en contact avec des enfants fragilisés, handicapés ou marginalisés, aussi bien en milieu scolaire que pour des cas sociaux ou dans le domaine de la déficience mentale. Alors pensez-vous que reconnaître et considérer l'animal comme un véritable partenaire, un médiateur, on va dire, est une approche qu'il serait dommageable de négliger?
Alors oui, pour moi, totalement dommageable, parce que comme dit précédemment, l'animal, c'est vecteur de positif. Et ça permet donc de créer de la confiance, pas seulement entre les uns et les autres, mais aussi surtout de la confiance en soi. Et c'est ce qui manque beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Apprendre à respecter, aimer, partager, développer le sens des responsabilités. Parce qu'un animal, il faut s'occuper de lui, il faut jouer avec, il faut le nourrir, il faut le promener. Et il faut aussi parfois le laisser se reposer. C'est pas une peluche qu'on pose dans un coin, donc...
Tout à fait.
Vous développerez ça, quoi.
Et il est vrai qu'il a été prouvé que l'animal peut apporter beaucoup, et bon nombre d'expériences le prouvent, ne serait-ce que l'exemple du père Guy Gilbert, hein, celui qu'on appelle le curé des Loubards, qui accueille des jeunes en réinsertion dans sa bergerie de faucons et qui obtient d'excellents résultats en leur permettant de travailler auprès des animaux, ou ne serait-ce que par l'exemple aussi de l'équithérapie, où le cheval est un parfait médiateur pour l'enfant ayant des troubles de comportement. Alors, comment vont vos deux chiens, Jérôme? Acceptent-ils facilement la mission qu'il leur est confiée?
Bien, ils vont bien. Mon vieux pépère de Labrador, quand il est en séance, il retrouve une seconde jeunesse. Mon petit York est toujours très très motivé pour aller dans les établissements. Et là, je vais travailler vendredi avec mon troisième chien. J'ai un troisième chien, donc un jeune berger australien de 7 mois qui va faire sa première séance fin de semaine, là, vendredi.
D'accord.
Bon, il va sûrement nous apporter autre chose.
Alors, justement, Jérôme Pic, avant que vous nous quittiez, pourriez-vous nous redonner vos coordonnées?
Alors oui, donc on peut me joindre par mail à jaysow@life.fr ou alors par téléphone au 06 20 25 93 05 et sur ma page Facebook Homme et Annie Thérapie. Voilà.
Voilà, 06 20 25 93 05. Merci à vous, Jérôme Pic. Bonne continuation dans ce métier tourné vers les autres. Merci à vous.
Merci.
Et certainement à très bientôt sur cette même antenne. Merci, Jérôme.
Au revoir. Merci.
Bonne semaine.
Au revoir.
À vous.
Chaque jour que Dieu fait, à ce chemin sur lequel on s'aime, à toi qui doutes, perdu aux portes du désert, à chaque ciel d'engrais, à cette route qui sort de l'univers. À chaque geste de paix, laissons-nous vivre ensemble, ouvrons nos mains qui tremblent, laissons passer l'amour. l'amour en premier, à chaque geste de paix, chaque jour que Dieu fait, à chaque geste de paix, comme au premier jour, laissons-nous vivre ensemble, nos mains se rassemblent, laissons passer l'amour, l'amour en premier, à chaque geste de paix, chaque jour que Dieu fait.
Et oui, laissons passer l'amour, c'était Lucie de Beausonge. Alors, la maladie d'Alzheimer touche 15% des personnes de plus de 80 ans. Avec 900 000 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, la France fait partie des pays où le nombre de malades est le plus élevé. 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, soit près d'un toutes les 3 minutes. En 2020, un Français de plus de 65 ans sur 4 devrait être touché par la maladie d'Alzheimer. Des chiffres impressionnants qui font que les efforts pour aider à la recherche, mais aussi les malades et les aidants, ne peuvent être relâchés. Docteur Guy de Rognecourt, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors l'année dernière, à cette même époque, alors que je vous interviewais sur le même sujet, on annonçait 850 000 personnes en France souffrant de cette maladie. Aujourd'hui, 900 000. Impressionnant quand même cette augmentation.
Oui, bien sûr, tout à fait. Et bon, je vais faire un petit rappel d'abord médical sur l'Alzheimer. Vous savez que c'est une accumulation de mauvaises protéines sur le neurone, hein, bêta-amyloïde, protéines de tau, qui entraînent la formation de plaques séniles, une destruction du squelette du neurone sous forme de filaments, et cela siège principalement sur le centre de la mémoire et de l'apprentissage au niveau de l'hippocampe, et apparaît ensuite une atrophie progressive. Alors pourquoi ça augmente? Parce que la toxicité alimentaire est de plus en plus néfaste. La toxicité atmosphérique aussi, notre mode de vie, hein, on relâche un peu la marche, l'effort, le sport, notre mode de vie alimentaire, puisque la nourriture devient trop grasse, mais dans le mauvais sens, et enfin l'allongement de la durée de vie qui fait que notre cerveau tout doucement se fatigue.
Tout à fait. Et vous me faites penser à un livre très très intéressant de Weston Price qui justement au siècle dernier anticipait un petit peu en disant que notre environnement, notre mauvaise nourriture influencerait vraiment notre état de santé. Alors chaque année, les trois clubs Rotary de Béthune aident l'association française Alzheimer à lutter contre ce fléau et se mobilisent donc dans un mouvement qui se veut être fédérateur, car il faut se dire que nous pouvons tous être confrontés au drame qu'il engendre, soit en tant que malade ou en tant qu'aidant. Alors on parlait de participation citoyenne tout à l'heure avec Jean-Louis Ouatté au niveau de l'environnement, mais elle est aussi nécessaire au niveau santé et surtout dans ce cas précis. Alors, docteur de Rognecourt, en tant que porte-parole de ces trois clubs, dites-nous comment pouvons-nous nous associer à votre action.
Alors, porte-parole de trois clubs de Béthune, plus, je le souligne, cette année, le club de Bruay et le club de Neulémines. Alors, comment vous associer? Venez à notre réunion de vendredi 27 janvier. J'expliquerai tout à l'heure comment elle va se dérouler. Et surtout, écoutez ce qu'on dit sur la maladie Alzheimer. Écoutez la plainte des aidants. Aidez les aidants, parce que les aidants sont vite fatigués et ont besoin qu'on vienne les aider. Prenez acte de participer aux associations, notamment France Alzheimer 62, et puis communiquer. Voilà, c'est un problème de communication.
Alors, chaque année, votre action se perpétue car les besoins sont grands, bien évidemment.
tout le monde connaît cette maladie, ses symptômes, ses déficiences et les problèmes qu'elle crée aux familles. Et donc, nous ne répéterons pas ce qui a déjà été dit au cours des émissions précédentes. Par contre, puis-je vous demander, docteur, si les chercheurs qui redoublent d'efforts pour développer de nouveaux traitements ont obtenu des résultats porteurs d'espoir ?
Alors, résultats sur le traitement, ça avance tout doucement. Il y a toujours les médicaments classiques qu'on appelle les inhibiteurs de la cholinestérase. Hein, ça empêche la destruction du neurotransmetteur, l'acétylcholine. Il y a un deuxième médicament aussi vendu actuellement contre le glutamate, qui est un acide aminé toxique sur le cerveau, c'est la mémantine. Et on avance. On avance parce qu'on sait maintenant, tout doucement, réduire la protéine nocive en bloquant certains enzymes. Bon, je vais dire BACE1, mais ça ne vous dit rien. On réduit aussi la formation des plaques amyloïdes et séniles en utilisant ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Hein, on fabrique des médicaments contre la protéine. Alors, il y a plusieurs titres, plusieurs noms, ce n'est pas la peine de vous les donner, mais sachez qu'on avance. Et enfin aussi, et j'en reparlerai après, il y a une prévention importante à faire.
Ben oui, justement, sinon, bon, où en est la recherche, qui, je suppose, ne porte pas que sur cet axe traitement ou médicament. Guérir, ce serait bien, mais ne faudrait-il pas aussi prévenir, justement ?
Tout à fait. Alors, prévenir d'abord, bien manger. Vous savez que les viandes industrielles sont nocives. En plus, elles sont porteurs d'agents infectieux. Vous savez que dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, nous manquons de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour l'activité cérébrale. Nous manquons de certains éléments nobles. Je vais parler de certaines plantes, le ginkgo biloba, de certaines graisses polyinsaturées, c'est les oméga-3. Vous avez tous entendu parler des oméga-3 et de la DHA. Enfin, il faut équilibrer pour les diabétiques leur diabète parce qu'ils facilitent les atteintes vasculaires cérébrales. Il faut se mobiliser, faire un peu de sport, mobiliser sa mémoire, par exemple, créer des associations de joueurs de bridge. Enfin, dans l'alimentation, favoriser les poissons gras, les vitamines C et E. Je vais donner des exemples, le brocoli, la fraise, les amandes. Manger des fruits, boire un verre de vin rouge par jour. En tant que médecin, je vous le conseille, il ne faut pas dépasser la dose. Enfin, il existe maintenant une épice qui est connu pour protéger contre l'Alzheimer, c'est le curcuma.
Le curcuma, très bon aussi pour,
oui, très bon,
pour l'arthrose, enfin pour les articulations.
Alors, le curcuma, il sert à beaucoup de choses.
Tout à fait. Docteur de Rognecourt, est-il vrai que le coût de la prise en charge des malades est de plus en plus élevé, surtout au niveau social ?
Oui, c'est de plus en plus élevé, puisque c'est le coût par rapport aux aidants. Vous savez que les médicaments ne coûte que 10% par rapport au reste du coût de la maladie d'Alzheimer. Ces médicaments, pour le moment, je dis bien pour le moment, sont remboursés à 100%, mais notre ministère envisage de les dérembourser, sans commentaire. Alors le reste, c'est 90% de coût pour le médico-social. On a fait des chiffres avec l'association France Alzheimer. On va dire en moyenne 1 000 euros par mois. Ceux qui restent à la maison, 570 euros. Ceux qui vivent en résidence médicalisée, ça coûte 2300 euros par mois. Et les aides qui viennent aider les aidants coûtent 411 euros par mois. Alors, on peut se faire aider. Hein, il y a un don du gouvernement pour la perte d'autonomie qu'on peut calculer selon certaines grilles d'évaluation. Enfin, je vais terminer par un chiffre monstrueux. La maladie d'Alzheimer coûte en France 20 milliards par an.
Donc, on l'a compris, restons tous mobilisés. Pour cela, très très vite, docteur, vous allez nous redonner le rendez-vous, ces modalités, les coordonnées nécessaires pour se joindre à vous, et puis on en reparlera ensemble la semaine prochaine. Alors, très très vite, ça se passera où ?
Alors, ça se passe à Vaudricourt, à ce qu'on appelle la salle Agrestis, le vendredi 27 janvier, à partir de 19h. Alors, il y aura à la fois une mini-conférence sur la maladie d'Alzheimer par des professionnels, mais pas trop longue. Il y aura la parole aux gens qui seront là, on venait nombreux, notamment aux aidants. Et puis, pour distraire un peu ces sujets difficiles, petite animation magicienne et repas très simple à base de spaghettis.
Voilà. Et on en reparle la semaine prochaine, docteur Guy de Regnaud-Court. Merci. Et je vous dis bien à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine à vous.
Bonne journée. Et merci de m'écouter.
Il est en retard, l'oubli, je l'attends depuis si longtemps. Il est en retard, l'oubli, cet insoumis, ce garnement. Il est en retard, l'oubli, peut-être qu'il n'arrivera jamais. Il est en retard, l'oubli, et ça défait tous mes projets. Tant de vieillards supplient la providence qu'ils ne viennent pas. Moi j'en ai marre que l'oubli m'épargne et ne t'efface pas. Il est si beau, l'oubli, je voudrais de ses cheveux dans mes cils. Mais ce salaud, il me fuit, je sais pas pourquoi il se défile. J'ai des cadeaux pour lui, j'ai le cerveau plein de beaux restes. J'ai un cœur trop rempli, qu'a juste envie qu'on le déleste. Peut-être bien que l'oubli ne mord que ceux qui le méprisent. Moi j'ai besoin de l'oubli, même que je lui donnerais ma chemise. Oui, mais ce chien d'oubli, il n'obéit qu'à d'autres maîtres. Jamais ne vient l'oubli, quand je le siffle de ma fenêtre. Je le veux tant, l'oubli, mais de rendez-vous en rencard. Il me laisse en plan, l'oubli, et toi tu me restes en mémoire. Et comme une folle, j'attends son obscurité comme un phare. Oui, comme une folle, j'attends qu'il s'abatte sur notre histoire. Comme une débile, j'attends qu'il me déshabille de toi.
Linda Lemay, alors vous n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous avons rendez-vous à nouveau, même heure, même antenne. D'ici là, portez-vous bien et puis passez une très très bonne semaine. Et à tout de suite, peut-être pour Kaléidoscope.